Et voici donc l'heure du journal présenté ce soir par Adrien Toffolet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Face aux menaces subies par l'école, le syndicat des directeurs d'établissements scolaires demande au gouvernement plus de formation et d'enseignement à la laïcité. Pas question de reculer sur le sujet, c'est la position défendue, vous l'entendrez. Une réaction qui intervient alors que le gouvernement multiplie les annonces suite à la mise en retrait du professeur du lycée Ravel à Paris, après des menaces proférées contre lui par une élève. La ministre Nicole Belloubet annonce d'ailleurs la création d'une force mobile scolaire nationale qui pourra être envoyée dans les établissements. Dans ce journal, également une grève historique dans les magasins Auchan, nouveau débrayage partout en France. Aujourd'hui, des salariés qui réclament des hausses de salaire pour lutter contre l'inflation. La trêve hivernale qui va prendre fin lundi avec de plus en plus de précaires parmi les personnes âgées, vous l'entendrez. À l'étranger, le président de la Pologne qui oppose son veto à la législation visant à libéraliser l'accès à la pilule du lendemain. Et puis la localisation précise de la bataille de Gergovie, c'était en Gaule, enfin établie. C'était une parole attendue 4 jours après l'annonce du départ anticipé du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, lequel avait été menacé de mort suite à une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile. Le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale s'est exprimé pour la première fois depuis le début de l'affaire cet après-midi. Lors d'une conférence de presse, le syndicat a affirmé son soutien au directeur qui s'est mis en retrait, qui intervient dans une période où les chefs d'établissement font face, je cite, à une volonté globale de déstabilisation de l'école de la part de certains élèves et de parents. Face à cela, enseignement de la laïcité et son respect sans faille sont la première réponse à apporter, estime le SNDPEN. Son président, Bruno Bokevitch, attend toutefois des mesures fortes de la part du gouvernement en matière de formation des personnels. On l'écoute.
Jean-Michel Blanquer avait annoncé, après l'affaire Samuel Paty, une généralisation d'un plan de formation, notamment sur ces questions-là. Pour nous, ce plan, effectivement, a commencé à voir le jour, mais il n'a pas été suffisamment développé. Donc il faut accélérer sur ce sujet. Une partie non négligeable de nos personnels, on a du mal à l'estimer, mais n'a pas encore été formée à ce stade. Donc il faut accélérer. La laïcité, ça s'explique, ça se travaille, ça s'accompagne. Et donc, puisque ça se conteste, il faut former les personnels à pouvoir bien l'expliquer et l'accompagner. Maintenant, il faut travailler sur les actions de prévention, de formation, pour éviter qu'une situation de cette nature ne puisse se reproduire. Donc en tant qu'éducateur et pédagogue, nous on est très attachés à la question des valeurs qu'on porte et de comment on peut former les jeunes et leurs parents pour que ça n'arrive plus, parce que c'est bien ça le fond du problème. Et comment les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans. Donc on voit bien à quel point les situations de harcèlement, par exemple, c'est la même problématique. Quelle place les réseaux sociaux ont pu jouer ?
Bruno Bokevitch du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et face à la vive émotion et colère des personnels de l'éducation, alimentée aussi ces derniers jours par les nombreuses menaces d'attentats reçues par des établissements scolaires, une vingtaine d'académies touchées en France, à travers la messagerie de leurs espaces numériques de travail, le gouvernement a défendu une position ferme, proactive, et s'est même de nouveau emparé du dossier cet après-midi. En marge de son déplacement à Bordeaux sur le thème de la sécurité des établissements scolaires, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a fait plusieurs annonces, Nourane Mahmoudi.
Une force mobile scolaire, c'est l'annonce phare faite par la ministre de l'Éducation ce matin, Nicole Belloubet. Elle pourra être envoyée dans les établissements scolaires qui font face à des difficultés en termes de sécurité. Une brigade censée rassurer les enseignants et les équipes éducatives est composée d'une vingtaine d'agents de l'Éducation nationale. Selon l'entourage de la ministre, elle pourrait bien être mise en place à la rentrée prochaine en septembre 2024. En cas de crise aiguë, le dispositif pourrait même être généralisé sur tout le territoire sous 48 heures, quand les moyens locaux nécessitent un soutien supplémentaire. Dans ce cas de figure, en plus de rassurer les équipes pédagogiques, elle aura une mission de sécurité intérieure. Notez que les établissements scolaires peuvent déjà faire appel à des équipes mobiles de sécurité, un dispositif créé en 2009 et qui dépend des rectorats. Par ailleurs, la ministre a souligné ce matin que l'État se portera systématiquement partie civile lorsqu'une plainte sera déposée, dans le but de garantir une certaine sécurité juridique. Cela concerne évidemment les actes de cybermalveillance ou des actes d'attaque physique contre des établissements scolaires. Hier, Nicole Belloubet a annoncé suspendre la messagerie dans tous les espaces numériques de travail, les ENT, des établissements scolaires du pays, après les menaces d'attentats contre collèges et lycées ces derniers jours.
Une première réaction aux annonces de la ministre, ça ne répond pas aux agressions qui se déroulent hors des établissements scolaires pour le syndicat SE-UNSA, syndicat qui souhaite également que les dispositifs soient discutés avec eux. Parmi les auteurs des menaces contre les établissements, un adolescent qui a été interpellé près de Paris a reconnu les faits aujourd'hui lors de sa garde à vue. Il est accusé d'avoir piraté des espaces numériques de travail et d'avoir également posté une vidéo de décapitation. C'était selon lui un défi amusant, sans motivation politique ou islamique, action qu'il dit regretter à présent. Il y a de plus en plus de détenus dans les prisons françaises. Le ministère de la Justice annonce même un nouveau record au 1er mars. 76 766 personnes incarcérées dans l'Hexagone, c'est du jamais vu. Près de 4 500 de plus qu'en 2023, alors que les prisons françaises sont déjà critiquées pour leur haut niveau de saturation, forçant l'accueil des détenus sur des matelas à même le sol. Une journée de grève nationale qualifiée d'historique par les syndicats du géant de la grande distribution Auchan. Les salariés ont une nouvelle fois débrayé toute la journée sur plusieurs sites, magasins et entrepôts, dans les Hauts-de-France, dans le Loiret, dans le Puy-de-Dôme, à l'appel des quatre syndicats de l'entreprise, CGT, CFDT, FO et CFTC. Leurs principales revendications portent sur leur pouvoir d'achat. Les NAO, les négociations annuelles obligatoires avec la direction, ont abouti sur une trop faible hausse des salaires, trop faible compte tenu de l'inflation, comme l'explique Nathalie Biondi du syndicat Force Ouvrière au magasin Auchan de Marsac.
La direction générale a décidé de fermer ses portes au NAO et donc elle ne veut plus revenir négocier avec nous, les partenaires sociaux. On nous propose une augmentation de 1,3 alors que nous réclamons 5%. Cela est inacceptable et ça ne couvre même pas l'inflation. Des primes de progrès qui sont quasi inexistantes, bien évidemment les conditions de travail qui se dégradent avec des surcharges de travail. Moi, depuis 36 ans que je bosse dans ce magasin, très franchement, c'est une dégradation à tous les niveaux. On est dans un bras de fer, les organisations syndicales ne sont absolument pas d'accord avec ce qu'ils nous proposent. Ils nous laissent des miettes actuellement, ce sont des miettes. On ne s'y retrouve plus vraiment, on a du mal à reconnaître notre entreprise.
Nathalie Biondi du syndicat Force Ouvrière dans le Périgord. La grève pourrait être reconduite demain au Champ 5e, acteur de la grande distribution en France, propriété de la famille Muliez, a vécu une année 2023 difficile avec près de 380 millions d'euros de pertes nettes. À moins de 3 mois des élections européennes, la thématique de la guerre en Ukraine, du soutien de la position de la France face à Moscou anime plus que jamais les débats en France. Hier encore, dans un entretien organisé par le média Politico et le think tank Europa Terra Nova, Jordan Bardella s'est dit opposé à une sortie du commandement intégré de l'OTAN tant que la guerre en Ukraine est toujours en cours. Un positionnement qui peut paraître étonnant de la part du vice-président du Rassemblement National, car du président du Rassemblement National, car dans le passé, Marine Le Pen avait affirmé vouloir quitter le commandement intégré de l'OTAN au nom de l'indépendance de la France. Alors Antoine Maret, faut-il y voir une évolution du parti ou un désaccord entre les deux têtes du RN ?
22 mars 2022, cela fait presque un mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Marine Le Pen est l'invitée de BFM TV. Et ce jour-là, sa position sur l'OTAN est on ne peut plus clair.
Ce que je souhaite, c'est sortir du commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi je veux sortir du commandement intégré ? Ben, la question, c'est pourquoi y être ? Pourquoi les pays veulent y être ? Ils veulent y être parce qu'ils veulent participer aux discussions sur la dissuasion nucléaire, donc américaine, sur laquelle ils comptent. La France n'a pas besoin de cela, puisqu'elle a une dissuasion nucléaire qui est autonome.
3 jours plus tard seulement, cette fois sur CNews, le discours de Marine Le Pen est quelque peu différent. Elle ne souhaite plus que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN, en tout cas pas immédiatement.
Il est sûr que compte tenu du conflit qui existe là, on va pas le faire alors qu'il y a une guerre dans un pays européen. Il n'est pas question, surtout en ce moment, de sortir du camp occidental. Mais il faudra le faire dès que, et je le souhaite vraiment de tout cœur pour le peuple ukrainien, l'ensemble de ceux qui y travaillent auront réussi à trouver les voies de la paix.
Les propos de Jordan Bardella reprennent donc l'adaptation de la parole officielle du RN à la guerre en Ukraine, guerre que Marine Le Pen n'avait absolument pas anticipée. Néanmoins, il existe plus que des nuances entre le président du parti et la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale sur ces questions internationales. Marine Le Pen est l'héritière d'une tradition anti-atlantiste, ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella. Ce dernier a plus nettement pris position contre Vladimir Poutine que son aîné. En février 2023, il avait par exemple fustigé, je cite, « la naïveté collective envers Poutine » avant de se faire reprendre par Marine Le Pen.
Jean Lassalle va pouvoir continuer sa campagne pour les européennes sans crainte de la justice. L'enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, ouverte à l'encontre de la tête de liste d'Alliance Rurale, a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux. L'ancien candidat à la présidentielle était accusé de viol par une femme lors de la campagne des régionales en 2010. Les investigations n'ont pas permis d'établir l'existence de cette infraction pénale. C'est une période toujours redoutée pour les locataires en difficulté. La trêve hivernale prendra fin au bout du week-end, dimanche soir officiellement, avec une journée de bonus toutefois en raison de l'interdiction des expulsions les jours fériés. Dès mardi matin, donc, de nombreux précaires vont être forcés à quitter leur logement et parmi eux, des personnes dites fragiles, comme les personnes âgées, alerte Michel Billet, sociologue spécialiste des questions relatives à la vieillesse.
On utilise volontiers l'expression « aménager son intérieur », comme s'il s'agissait de l'intérieur de soi. Et par conséquent, si demain, pour quelque raison que ce soit, et à plus forte raison, si cela se passe avec violence, avec un processus illégal, abusif d'expulsion, vous détruisez l'équilibre qui s'était construit en moi-même. Cela constitue un niveau de violence que l'on n'imagine pas, parce que si je suis encore très jeune, j'ai sans doute beaucoup d'énergie disponible pour reconstruire cet équilibre intérieur et le projeter dans un nouvel habitat, etc. Mais plus je suis vieux et plus tout vient se conjuguer pour donner au traumatisme une amplitude, un volume et une sévérité absolument terrible.
Accepter que nous pourrions vieillir sans un toit, ça dit quoi ?
C'est une insulte faite au grand âge. Ça veut dire que les moyens de se loger, les vieux sont de plus en plus nombreux à ne plus les avoir, ou en tout cas à ne plus les avoir si on ne vient pas les soutenir, les accompagner, les aider concrètement à financer le logement auquel, comme tout concitoyen, ils ont droit.
Le sociologue Michel Billet, joint par Mathieu Laurent. Il n'aura fallu qu'un homme pour empêcher aux femmes polonaises d'utiliser une contraception aussi simple que la pilule du lendemain. Début mars, le Parlement en Pologne avait voté pour la rendre disponible sans ordonnance pour toute personne de plus de 15 ans. C'était sans compter sur le président polonais, le conservateur Andrzej Duda, qui vient aujourd'hui de mettre son veto à la législation permettant la libéralisation de cette pilule. Une décision difficile à accepter pour celles qui se battent pour le droit à l'avortement, Martin Chabal.
Il faudra toujours avoir une ordonnance du médecin pour avoir le droit à une pilule du lendemain en Pologne. Mais cette décision était presque attendue, c'est en tout cas ce que ressent Janeta.
C'était finalement assez naïf de m'attendre à ce qu'il laisse passer la loi. Je pense pourtant que c'est le minimum à faire pour respecter le droit des femmes. C'est vraiment très décevant.
Le président polonais dit agir au nom de la santé de celles qui prennent cette pilule qu'il nomme « bombe hormonale ». Pour Paulina, ce n'est pas au chef de l'État de se prononcer sur ce sujet.
Il devrait plutôt écouter les spécialistes avant de prendre une décision. Là, on voit que son opinion est basée sur ses idées religieuses et partisanes. C'est absurde.
Le vote du Parlement début mars n'était pas une victoire pour ces Polonaises. Zuchia a d'ailleurs presque anticipé ce veto.
Chez moi, j'ai toujours une plaquette de pilules que j'avais pu me procurer, juste au cas où j'en aurais besoin.
Le gouvernement a tout de même un plan B pour contourner le veto. Il espère pouvoir donner l'autorisation aux pharmaciens de délivrer des ordonnances pour la pilule du lendemain.
Martin Chabal, direction l'Ukraine à présent, où des frappes russes sont endommagées gravement. 3 centrales thermiques ukrainiennes la nuit dernière et provoqué des coupures de courant dans certaines régions. Ces cibles sont maintenant privilégiées par le Kremlin. Les autorités ukrainiennes sont désormais obligées de rationner, Eric Bigala.
Les bombardements nocturnes de la Russie sont désormais quasi quotidiens, mais celui de la nuit dernière était particulièrement important. 99 vecteurs, en majorité des drones kamikazes Shahed, ont été lancés sur l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne annonce en avoir intercepté 84, dont 58 drones Shahed. La douzaine de bombes volantes qui sont passées entre les mailles du filet ont visé des infrastructures énergétiques. Trois centrales thermiques ont été gravement endommagées cette nuit. Détaillé ce matin, le fournisseur d'énergie ukrainien Detec, sans donner la localisation de ces installations. Le même opérateur qualifiait la situation du réseau énergétique d'équilibrée, tout en prévenant que des délestages seraient sans doute nécessaires dans la soirée, au moment où la consommation domestique d'électricité atteint son pic. Ce soir, Ougr Enerco s'est dit contraint d'appliquer des programmes de coupure d'urgence dans les régions de Dnipropetrovsk, de Zaporizhia et de Kirovograd, dans le centre du pays. Dans le même temps, le Premier ministre ukrainien Denis Shmigal a argué de, je le cite, « ces attaques barbares contre le système énergétique ukrainien » pour demander davantage de systèmes de défense anti-aérienne. Il est vrai que ces systèmes commencent manifestement à manquer, même si la défense solaire ukrainienne a tout de même réussi, à ses dires, à intercepter la nuit dernière 85% des missiles et drones lancés par la Russie.
Eric Biegala. Alors que les bombardements israéliens ont encore frappé la bande de Gaza, aujourd'hui c'est au tour du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, d'alerter, comme l'ONU l'a fait ces dernières semaines, sur une situation de famine imminente dans l'enclave palestinienne. Près de 2,5 millions de Gazaouis dépendent d'une aide humanitaire insuffisante. Toutefois, un nouveau bateau, actuellement à Chypre, chargé de vivres et de médicaments, pourrait partir demain en direction de Gaza. Et puis, l'espoir de voir Israël et le Hamas s'entendre sur une trêve pourrait à nouveau se concrétiser, puisque le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient de donner son feu vert à un nouveau cycle de pourparlers à Doha et au Caire, négociations qui se dérouleraient dans les prochains jours. En Allemagne, c'est une mise en garde inédite que viennent d'adresser les autorités. Elle est destinée aux amateurs de sites de rencontres qui auraient la bonne idée de flirter virtuellement via des services de rencontres avec des hommes ou des femmes qui se présentent comme venant de Russie. Le ministère des Affaires étrangères leur déconseille d'ailleurs de se rendre en Russie, rejoindre l'être aimé. Un avertissement lancé alors que les autorités constatent une recrudescence d'escroqueries sur Internet qui vise des ressortissants européens et américains. À Berlin, les précisions de Sébastien Baer.
Gare au piège des rendez-vous amoureux en ligne. Voilà en substance l'avertissement lancé par le ministère des Affaires étrangères qui appelle les utilisateurs de sites de rencontres comme Tinder, Hinge ou Bumble à se méfier des faux profils. Pour un premier rendez-vous avec un flirt en ligne, la Russie n'est pas la meilleure destination, lit-on sur le compte Instagram. Le ministère évoque des arrestations arbitraires, de plus en plus fréquentes, le plus souvent pour des motifs futiles, des détails, un post, une photo sur les réseaux sociaux ou encore la mention du mot « guerre » dans un commentaire, même ancien, peuvent faire courir un risque. Toute critique de Poutine ou de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine peut conduire à des années de prison, écrit le ministère. Selon les derniers chiffres rendus publics, une trentaine d'Allemands sont emprisonnés en Russie, dont la moitié environ de binationaux, mais le nombre réel pourrait être plus élevé, selon le gouvernement. Les autorités préviennent aussi qu'en cas d'arrestation, la diplomatie et l'aide consulaire ont leurs limites. Ce n'est pas comme dans les films hollywoodiens, nous ne pouvons pas vous faire sortir de prison n'importe où, conclut le ministère. Sur le site internet dédié au conseil aux voyageurs, les autorités allemandes recommandent à leurs ressortissants présents en Russie de quitter le pays si leur présence n'est pas impérative.
Et puis retour en France pour terminer ce journal, la France d'un autre temps avec un épisode de l'histoire de la Gaule aussi célèbre que celui de la reddition de Vercingétorix face à César, celui de la bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ, la grande victoire des troupes gauloises menées par le chef Arverne. Le site de cette bataille a été fouillé par des générations d'archéologues. Il n'a toutefois été classé qu'en août 2022 et son périmètre s'est trouvé depuis contesté en justice. Bonsoir Éric Chavroux.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Et hier soir, la localisation de la bataille de Gergovie a été actée par le Conseil d'État.
Les données historiques et archéologiques ne font plus aujourd'hui sérieusement débat au sein de la communauté scientifique, souligne le Conseil d'État dans sa décision. Il valide ainsi le classement du site établi effectivement fin août 2022 par un décret du ministère de la Transition écologique, soit précisément sur place les trois oppidums Arverne de Corinth, Gergovie et Gondole, ainsi que les camps de César établis sur 14 communes du Puy-de-Dôme, dont Chanona. L'institution d'ajouter que le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation à propos de ce périmètre en vue d'un ensemble cohérent qui favorise la lecture paysagère de ces vestiges. Les requérants, Kléber Rossillon, un gestionnaire de sites patrimoniaux, et Marie-Jeanne Ettori affirmaient que le célèbre affrontement de 52 avant Jésus-Christ avait eu lieu sur les côtes de Clermont, au-dessus de l'agglomération clermontoise, et là où M. Rossillon est propriétaire d'une parcelle. Le directeur du musée de Gergovie se dit rassuré par la décision du Conseil d'État, interrogé par le quotidien La Montagne, parce que ce sont, je cite, « de vieux combats d'église ». Mais cette petite bataille, énième épisode d'une controverse de longue date, n'est peut-être pas complètement terminée, car le Conseil d'État admet que rien n'empêche de nouveaux travaux de recherche sur le grand plateau naturel des côtes de Clermont.
Éric Chavroux, merci. Le temps de demain matin, pluvieux du nord au massif central. Un ciel quasiment gris partout, quelques éclaircies sur le Cotentin et les Pyrénées. Sensiblement identique l'après-midi avec un risque d'orage sur la Drôme et les Alpes de Haute-Provence. Les températures douces toute la journée, entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 22 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.